VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Conakry, 17h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. En Mauritanie, la Cour suprême a décidé ce mardi qu'un Mauritanien condamné à mort pour un billet de blog jugé blasphématoire serait rejugé par une nouvelle cour d'appel différente de celle qui lui a infligé la peine capitale. La date du nouveau procès du blogueur Cheikh Ould Mohamed Ould Mkeïtir n'a pas été précisée. La plus haute instance judiciaire mauritanienne s'est prononcée alors que des milliers de personnes attendaient sa décision sur une grande place de Nouakchott, à environ 2 km du siège du tribunal. Les intéressés réclamaient la confirmation de la sentence et l'exécution de la peine contre le prévenu. Ils ont fait connaître leurs exigences à l'appel du Forum des oulémas et imams pour la défense du prophète de l'islam, collectif qui a organisé plusieurs manifestations similaires depuis novembre. Un important dispositif de sécurité avait été déployé à travers la capitale Nouakchott à l'occasion de cette affaire. En Côte d'Ivoire, report au 21 février du procès de 10 personnes, dont 8 militaires ivoiriens, accusés d'enlèvement et d'assassinat de 4 hommes, dont 2 Français, en pleine crise post-électorale en 2011. C'est ce qu'a décidé ce mardi le juge Moulay Sisseko, qui préside au procès à la cour d'assises d'Abidjan, peu après l'ouverture des travaux. Le juge Sisseko a fait état de l'absence de 5 accusés sur 10 pour des raisons matérielles, ces personnes n'étant pas assistées par des avocats. Rappelons que le directeur de l'hôtel Novotel d'Abidjan, Stéphane Franz Di Ripel, Yves Lamblin, directeur général de Sifra, plus grand groupe agro-industriel ivoirien, son assistant béninois Raoul Adeossi et le malaisien Chelia Pandian, directeur général de Sania, filiale de Sifra, avaient été enlevés par un commando militaire le 4 avril 2011 en plein combat à Abidjan pendant la crise post-électorale. Ils auraient été torturés et tués, selon le nouveau gouvernement ivoirien. En RDC, un officier des FARDC, l'armée congolaise, et deux pilotes russes retrouvés morts après des crashs d'hélicoptères dans l'est du pays vendredi dernier, a déclaré le général Léon Mouchalé, commandant des opérations dans la région, lors d'une conférence de presse ce mardi à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, région où les accidents se sont produits. Deux hélicoptères Mi-24 de l'armée congolaise s'étaient écrasés vendredi dans une région montagneuse à la suite du mauvais temps, selon le général Mouchalé. Au cours des recherches, les troupes au sol ont également retrouvé deux autres officiers des FARDC et 3 membres d'équipage de nationalité russe blessés, qui ont été évacués par les casques bleus vers des hôpitaux à Goma. Les deux crashs se sont produits lors d'une patrouille de reconnaissance contre des ex-rebelles du M23, mouvement du 23 mars, qui avait fait prisonnier un autre pilote russe, a précisé le général Mouchali. On reste en RDC, toujours pas de sortie de crise dans le pays. La CENCO, la Conférence épiscopale catholique, a parrainé un dialogue entre le pouvoir et l'opposition. Il y a eu un accord sur la composition d'un futur gouvernement qui se fait toujours attendre. Puis, Étienne Tshisekedi, leader du rassemblement d'opposition, est parti à Bruxelles pour des soins médicaux. Madame Christine Botefaboko, vice-présidente de la Coalition des Congolais pour la Transition, propose maintenant des états généraux de la nation. On l'écoute.
Pour sortir de cette crise, nous comptons organiser des états généraux congolais qui seront composés d'une constituante et d'un gouvernement constitutionnel de transition qui pourra exercer pendant 2 ans jusqu'aux futures élections. Parce que là, franchement, le pays est dans un état chaotique et le plan B de la CENCO, c'est d'envisager une mise sous tutelle de la RDC. Nous ne sommes pas d'accord avec ce projet. Ça fait 56 ans que le Congo est indépendant. Nous n'allons pas retourner en arrière, nous n'allons pas régresser en mettant le pays sous tutelle.
Madame Christine Botefaboko, vice-présidente de la Coalition des Congolais pour la Transition.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Fin du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a assisté ce mardi à la cérémonie de clôture du sommet, au lendemain de la réintégration du royaume chérifien au sein du bloc panafricain après 33 ans d'absence. Le Maroc salue son retour au sein de l'Union africaine comme une décision historique et une victoire diplomatique. Mais la question se pose maintenant de savoir comment Rabat va gérer sa cohabitation au sein de l'organisation panafricaine avec le Front Polisario qui revendique le Sahara occidental occupé par les Marocains. Ibrahima Kane, spécialiste de l'Union africaine, estime que le Maroc n'aurait jamais dû partir de l'organisation panafricaine.
Le Maroc a quitté l'OUA d'alors pour des raisons liées à la reconnaissance de la RASD. Et aujourd'hui, c'est le Maroc qui reconnaît, ne serait-ce que tacitement, la République arabe sahraoui démocratique par la ratification de l'acte constitutif de l'Union africaine. Le Maroc accepte la République sahraoui est un État africain, est un État indépendant, est un État souverain, et que cette souveraineté, cette indépendance doit être respectée par le Maroc. C'est ça le paradoxe de ce retour du Maroc, parce que finalement, à y regarder de plus près, il y a eu 30 années de perdu pour absolument rien, puisque ce qu'il a refusé il y a 30 ans, c'est ce qu'il accepte aujourd'hui, même dans des conditions plus ou moins difficiles, parce que l'occupation maintenant d'une partie du Sahara occidental qui constitue le territoire de la République arabe sahraoui devient quelque chose d'illégal dans le cadre juridique africain. Et c'est ça qui est un paradoxe pour le Maroc.
Ibrahima Kane à Dakar, au Sénégal. Conflit en Libye, le président tchadien Idriss Déby Itno apporte un soutien au maréchal libyen Khalifa Haftar, rival du chef de gouvernement d'Union nationale à Tripoli, reconnu par la communauté internationale. Les détails avec Eric Manirakiza.
Idriss Déby Itno présente Khalifa Haftar comme une solution pour le pays. Le président tchadien affirme qu'il a reçu deux fois N'Djamena et assure que le maréchal controversé n'a pas d'ambition politique personnelle. Son rôle, dit-il, est d'aider à un rapprochement pour le retour à la stabilité. Rival du chef du gouvernement d'Union nationale, Faez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale, le maréchal Haftar est très actif dans la lutte contre les djihadistes dans l'est de la Libye. Début janvier, N'Djamena a fermé sa frontière terrestre avec le voisin libyen en raison d'une menace d'infiltration terroriste. Les effectifs militaires tchadiens ont été doublés près de cette frontière. Monsieur Déby estime que la menace Daesh persiste. Selon lui, l'intervention des forces spéciales à Sirte n'a fait que créer un nouveau regroupement des terroristes dans la région de Koufra, au sud, à 200 km du Tchad.
Crise migratoire, la Tunisie a mis en échec 113 tentatives d'immigration clandestine en 2016. La plupart de ces migrants ont transité par la Libye voisine, à Ozuma Compaoré.
Lofti Brahim, chef de la garde nationale, a dit devant le Parlement tunisien que l'an dernier, il y a eu 113 tentatives d'immigration clandestine et 1105 personnes ont été arrêtées. Il n'a pas donné de détails sur le sort des migrants interpellés, mais ils sont le plus souvent expulsés. Selon l'ONU, plus de 5000 personnes ont trouvé la mort l'an dernier en tentant de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe à partir de la Libye où des réseaux de passeurs profitent du chaos politique et sécuritaire. Hier, lundi, les gardes-côtes libyens ont intercepté quelques 700 migrants qui tentaient cette traversée périlleuse. En moins d'un mois, l'Italie a vu débarquer sur ses côtes méridionales plus de 4000 migrants, pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne.
À noter que le président guinéen Alpha Condé, nouveau président en exercice de l'Union africaine, a désigné le président ougandais Yoweri Museveni pour discuter au nom du continent africain du dossier des migrants avec l'Union européenne. Coupe d'Afrique des nations de football au Gabon, la première demi-finale opposera demain à Libreville les étalons du Burkina Faso à l'Égypte, cette fois vainqueur de la CAN. Mais les Burkinabés ne sont pas impressionnés, nous dit notre envoyé spécial au Gabon, Timothée Donangmaï.
Les étalons se sont entraînés lundi à huis clos au stade de l'INGS de Libreville. Une décision du coach Paulo Duarte qui veut assurer à ses poulains une concentration maximale avant la demi-finale contre l'Égypte. Dimanche déjà, consigne avait été donnée aux fans burkinabés de ne pas se rendre à l'entraînement. Pour les étalons, la mission au Gabon est loin d'être accomplie et il faut mobiliser toutes les ressources mentales et physiques pour y parvenir. L'Égypte est une adversaire de taille en demi-finale et ils en sont conscients. Mais les Burkinabés n'ont pas oublié signifié leur élimination par les pharaons en 1998 sur leur propre pelouse à ce même stade de la compétition. Ils comptent donc bien prendre leur revanche cette fois-ci, nous a dit le président de la Fédération burkinabé de football, le colonel Sita Sangaré. Quelques atouts des étalons ici au Gabon. Ils ont accumulé un précieux capital de sympathie auprès des Gabonais pour avoir été la première équipe nationale à arriver sur place pour la CAN 2017. Par ailleurs, leur coach Paulo Duarte a gardé de bonnes relations ici et a entraîné les Panthères gabonaises pendant 2 ans. Timothée Donangmaï, Libreville, VOA Afrique.
La deuxième demi-finale se jouera jeudi entre le Cameroun et le Ghana. Merci de votre attention.